CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Allez, vous venez nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité avec, comme annoncé, en studio, Michel Delpech et Élise Jean. Monsieur, dame, bonjour.
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 Et ravi de vous accueillir dans ces studios pour parler de climat, d'énergie. Michel Delpech, maire de Monteil, vice-président de la communauté de communes du Grand Villefranchois et notamment en charge du plan climat air énergie territorial. Élise Jean, vous en êtes la chargée de mission et également, depuis quelques années maintenant, animatrice du tri et de la réduction des déchets pour le compte de la communauté de communes du Grand Villefranchois. Un plan climat, parce que le climat change. Difficile aujourd'hui d'être climato-sceptique tout de même, faut bien l'admettre. Et pour planter le décor, peut-être qu'on pourrait commencer par évoquer les enjeux pour notre territoire de ce plan climat air énergie territorial.
Oui, donc on est d'abord, il faut le dire, c'est un plan climat air énergie territorial obligé, puisque nous sommes plus de 20 000 habitants. Donc nous avions l'obligation de faire ce plan climat air énergie, aidé par le PETR. Donc nous avons fait un bilan donc, de nos ressources et surtout de nos consommations. Et le bilan est quand même assez significatif, c'est-à-dire que nous sommes dépendants énergétiquement à 87% exactement en termes d'énergie. Donc ça veut dire que nous ne produisons que 13%. Ça veut dire que toute l'énergie, nous l'achetons à l'extérieur du territoire. Donc il est important de réfléchir aux moyens de diminuer cette consommation, qui est quand même assez importante.
Alors, il y a un plan de bataille hein, pour réduire notre consommation d'énergie fossile, et puis devenir producteur d'énergie renouvelable. On va en parler dans un instant. Élise Jean, peut-être un mot sur le plan climat-énergie, en tant que chargée de mission. Quel est votre rôle avec, on peut parler de Julien Caillet également, qui fait partie de l'équipe, qui est conseiller énergie, qu'on avait croisé dans ses studios à l'occasion du jour de la nuit. D'ailleurs, il était déjà question, c'était les prémices, je serais tenté de dire, de la réduction d'énergie sur notre territoire avec l'extinction de l'éclairage public.
Oui, alors le plan climat, donc on doit le mettre en place, le valider cette année. L'idée, donc, c'est qu'à l'issue de ce diagnostic qui a été réalisé, on définisse une stratégie, que les élus, en concertation avec les citoyens, définissent une stratégie, c'est-à-dire quelles orientations pour les prochaines années, notamment avec comme première étape 2030. Et à l'issue de cette première étape de concertation, on va mettre aussi en place, dès mardi prochain, des ateliers de concertation pour réfléchir à des actions très concrètes sur le territoire pour pouvoir réduire notre consommation, produire des énergies renouvelables, mais aussi sur le volet adaptation au changement climatique.
Rénovation de l'habitat.
C'est ça, puis c'est aussi tout ce qui est ressources en eau, préservation de la biodiversité, tout ce qui tourne autour de l'environnement et de l'énergie. Et sans oublier aussi le volet qualité de l'air, qui même s'il n'est pas énormément impactant sur le territoire, doit être pris en compte aussi.
Là, c'est plus sur la gestion des déchets plutôt et l'émission de gaz à effet de serre, le côté R du plan climat air énergie.
Non, c'est plutôt ça va être. On va avoir le volet gaz à effet de serre, mais aussi tout le volet pollution, particules fines, toutes ces pollutions là qui doivent être prises en compte. Alors même si nous sur la comté de communes, on dépasse très rarement les seuils, hein, on a pas de pic de pollution sur la comté de communes, il faudra quand même veiller à justement ne pas dépasser ces seuils et puis être vigilant sur le maintien de la bonne qualité de l'air dans l'Aveyron.
2030, un premier palier dans 11 ans et puis objectif final en 2050 de produire plus d'énergie qu'on en consomme. Pour ça, il faut réduire sa consommation actuelle. Comment on se situe sur le territoire du périmètre de la communauté de communes du Grand Villefranchois? On est énergivore, on laisse les lumières allumées, c'est Versailles, on est plutôt modéré ou on est déjà sensible à l'idée de la réduction d'énergie? Grâce au compteur Enedis, compteur Linky.
Alors, on a une moyenne des consommations qui est légèrement supérieure à celle de l'Aveyron. Actuellement, on consomme 723 gigawattheures par an. Donc on est dans la moyenne, légèrement supérieure. Je dirais qu'il y a une grosse marge de manœuvre sur les efforts à réaliser. Et en termes de production, donc on l'a évoqué, on est à peine 13% de production d'énergie renouvelable sur le territoire, notamment liée Voilà, notamment lié principalement au bois énergie avec tout ce qui est poêle et cheminée.
Qui consomme, on peut les dénoncer aujourd'hui ou c'est compliqué? Qui sont les gros énergivores, les industriels? C'est incontournable pour faire marcher l'économie?
Je dirais qu'en priorité, ce sont les résidentiels.
Les résidentiels, d'accord.
C'est nous pour 30%, voilà, consommation résidentielle, le transport, surtout le transport de personnes, donc nos mobilités quotidiennes, pour à peu près 30% aussi. Et puis les industriels, autour de 21%. Donc voilà, c'est un peu, c'est le trio de consommateurs.
Alors pour ce faire, vous avez mis en place, et d'ailleurs depuis début février, des rencontres. On est dans la phase de concertation, de mobilisation. Petit retour sur le week-end du 8-9 février, c'était à Saint-Igeste, je crois savoir, avec la projection d'un film.
Oui, c'était un week-end de rencontres qui a permis de rencontrer des citoyennes. Ça a commencé par la projection d'un film, c'est Ingersheim, c'est ça le nom ?
Sacré village.
Un sacré village. Donc c'est vrai que c'est un modèle assez extraordinaire. On atteignait, c'est vraiment le top du top avec un maire très sensible à tout ce qui est écologie, quoi, et qui ont commencé depuis fort longtemps, quoi. Mais donc, ça a servi de support à des remarques des citoyens qui étaient là. On n'a pas entamé forcément le débat, mais c'était surtout les remarques, ce que pensaient les citoyens par rapport à ce qu'on faisait sur le territoire. Voilà. Le lendemain, c'était le matin, un atelier avec des présentations des intervenants qui sont venus présenter des circuits. Il y avait un agriculteur bio du secteur, il y avait le responsable d'un éco-hameau de Verfeil, j'oublie encore, Réseau Pousse, le système d'autostop organisé, quoi. Voilà, donc c'était un des débats plutôt avec un petit buffet à midi et l'après-midi des visites, donc la visite d'une maison. Une maison basse consommation à La Capelle Balaguier, je confonds toujours, et l'éco-hameau de Verfeil, où on a pu voir des maisons construites rien qu'avec des produits du coin, quoi, et avec des consommations vraiment très très faibles. Voilà. Donc une journée assez enrichissante. C'était le lancement, on va dire, c'était le début de la concertation citoyenne, puisque maintenant, nous sommes rentrés dans une phase de concertation opérationnelle, dont le 5 mars, on a mis en place les mardis de la transition énergétique ou les mardis du climat. Et donc, on commence le 5 mars à Saint-Vincent. Donc, c'est comment favoriser la rénovation énergétique sur le territoire et comment se déplacer quotidiennement en polluant moins. Ça, c'est là pour le premier atelier.
Oui. Petit retour peut-être sur le 19 février où vous aviez déjà une rencontre autour d'ateliers pour construire des actions à mener ensemble sur le territoire. Des idées commencent à émerger ou on n'en est pas encore là? On est plus dans la rencontre, l'échange, la mobilisation, puisqu'il y a une société coopérative d'intérêt collectif qui est en train d'être créée aussi.
Alors sur cet atelier du 19 février, en fait, l'idée c'était plutôt un atelier stratégique. Donc c'était de définir les grandes orientations pour notre plan climat. On a utilisé un dispositif qui s'appelle Destination Tepos, qui se matérialise par un plateau de jeu avec des cartes. Et l'idée, c'était de concrètement voir comment on pouvait réduire nos consommations et produire de l'énergie renouvelable sur le territoire. Donc les citoyens devaient faire des choix avec des petites cartes. Voir est-ce qu'on met l'accent sur le résidentiel, sur le transport, sur tout à la fois. L'idée, c'est aussi de créer un petit peu un électrochoc en montrant que si on veut être TEPOS, territoire énergie positive en 2050, c'est-à-dire produire plus que ce que l'on consomme, il va falloir y aller.
Et changer nos habitudes.
Changer nos habitudes, et puis c'est la somme de toutes ces actions finalement qui vont nous faire atteindre nos objectifs, et on ne pourra pas se contenter de petites actions parsemées par-ci par-là.
Voilà, il y a un grand plan de bataille et puis ça joue sur le collectif aussi. N'importe qui peut vous rejoindre pour participer aux discussions, aux échanges, à donner des idées. Il y a déjà dans les clous et posés sur la table des projets. On peut évoquer les panneaux photovoltaïques. Je crois savoir que 8 communes de la communauté de communes du Grand Villefranchois ont donné leur accord pour installer sur des bâtiments publics ce type de panneaux.
Oui, c'est-à-dire que nous sommes en train de définir les statuts d'une société, d'une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui va porter ces projets-là. Donc, l'intérêt de cette société, c'est d'impliquer des citoyens, Il faut savoir que ça a été, elle a été retenue dans l'appel à projets de la région pour les énergies positives, les énergies renouvelables, qui va nous permettre à tout euro citoyen une aide de 1 euro de la région jusqu'à concurrence de 100 000 euros. Donc l'intérêt à ce que les citoyens s'approprient cette société. Et donc, ils participent directement, en devenant sociétaire, au développement des énergies renouvelables sur le territoire. Donc, c'est vrai que la première grappe, qu'on appelle une première grappe, c'est surtout des toitures. Donc, c'est que des toitures qui appartiennent à des collectivités, des communes, 8 communes, 13 installations, si ma mémoire est bonne. L'intérêt, c'est voilà, produire et surtout que les ressources, dans la définition des statuts de la SIC, c'est que 62% des revenus générés par ces installations soient réinvestis pour redévelopper derrière encore d'autres énergies. Donc ça, c'est le départ, on va dire, d'installation d'énergie renouvelable. Et on espère que ça va faire des petits et que l'idéal serait qu'à 2050, la production soit égal à la consommation. Ça veut dire donc qu'on ait réduit nos consommations et qu'on ait augmenté nos productions de manière à être à zéro. Et si on peut être mieux, ça sera plus. C'est-à-dire si on produit plus que ce qu'on ne consomme, ça sera encore mieux.
Un cercle vertueux puisque 60% serait réinjecté dans de nouveaux projets. On est vraiment entre produire et réduire. Il y a d'autres choses. Je l'évoquais, l'extinction de l'éclairage public. Ça semble fédérer toutes les communes. Ça, c'est une économie de base. C'est du bon sens.
Oui, c'est la première économie. C'est le premier acte fort qui a été décidé en communauté de communes par les élus. C'est, je crois qu'il y a 22 communes sur 29 qui ont délibéré. D'autres s'équipent, c'est-à-dire on fait le choix de s'équiper en matériel plus et moins énergivore. Donc il y en a une qui éteint déjà, c'est en Meyrac, il faut le signaler. Donc on a, je pense que début 2020, la plupart des communes seront équipées d'horloges astronomiques qui permettent une gestion de l'éclairage beaucoup plus précise et qui permettra à chaque conseil municipal, de décider ou non les plages horaires. Et c'est vrai qu'éclairer entre minuit et 5 heures du matin, c'est un non-sens, quoi. On éclaire pour rien, quoi.
Économie, 300 000 euros, je crois. En tout cas, on réduit de moitié la facture d'énergie pour une commune, à peu près.
Oui, à peu près 40% après, parce qu'on comprend bien qu'il y a des endroits où il est difficile d'éteindre. On pense au centre de Villefranche, peut-être, où c'est compliqué. Il y a des zones où ça sera compliqué d'éteindre. Mais je pense qu'il y a un gros effort à faire là-dessus. Et c'est vrai que c'est une économie assez importante. C'est de l'ordre de 300 000 euros. Quoi, voilà.
L'éclairage des commerces aussi. Je crois que logiquement, les commerces n'ont pas le droit d'éclairer la nuit. Mais il y a un peu de... Non, Élise qui a fuité sur ce...
c'est effectivement une obligation qui n'est pas tellement respectée. Ouais.
Des dérogations partout en France. Hein. Le 5 mars, comment favoriser la rénovation énergétique sur le territoire? Une question qui sera abordée à la salle polyvalente de 120 SA dans le cadre des Mardis du Climat. Et une deuxième question aussi assez passionnante. Comment se déplacer quotidiennement en polluant moins? Je serais tenté de dire l'attraction animale, mais bon, je vais passer pour... Et la bougie peut-être pour l'électricité? Non, mais il y a d'autres solutions. Vous l'avez évoqué, Michel Delpech, sur le covoiturage. Mais il y aurait d'autres choses là où on ne peut pas encore le dire. La réunion n'a pas eu lieu, mais ça serait quoi?
C'est-à-dire qu'on est sur un territoire où il est difficile de mettre en place des transports en commun quand même. On n'a pas un réseau urbain très, très, très important. Donc il faut réfléchir comment on peut transformer ces façons de se déplacer. Je pense que le covoiturage en est un, peut-être en multipliant les aires de covoiturage, en mettant en place peut-être des... Je ne sais pas, ce n'est pas de même, mais à un horizon proche des systèmes de par maintenant avec nos applis, on peut peut-être développer une appli, je sais pas, c'est des idées quoi, hein, qu'on lance. Et puis il y a aussi Réseau Pouce qui existe déjà, sur lequel on peut s'appuyer, qui est en fait de l'autostop qu'on a connu, enfin moi que j'ai connu quand j'étais jeune, et de l'autostop organisé avec une garantie pour l'autostoppeur. Et pratiquement c'est que 10 minutes en moyenne, c'est pas plus de 10 minutes d'attente, ce que nous expliquaient les responsables de Réseau Pouce. Et pour les gens qui prennent des autostoppeurs, c'est la garantie pour la sécurité. Quoi. Ils sont sécurisés parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des gens qui sont rentrés dans un réseau, qui sont identifiés, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est des pistes. Voilà. Après, peut-être à nous d'imaginer d'autres choses et d'être plus imaginatifs encore et de trouver des solutions. Et là, on attend à ce que les gens viennent justement proposer des choses. L'intérêt, c'est ça, c'est d'ouvrir... aux citoyens et si déjà ont décidé, surtout qu'ils viennent en parler. Quoi. C'est très intéressant.
Les circuits courts, il en sera question également. Consommer local aussi, c'est pas rien. Et même un acte militant, je serais tenté de dire, au regard de ce que peut nous proposer l'industrie agroalimentaire et les transports pour acheminer ce qu'on peut consommer. Élise, Michel, peut-être sur les circuits courts, comment c'est pas encore abordé, ça viendra un petit peu plus tard, hein, le 12 mars. Comment produire, consommer et se nourrir avec un moindre impact sur l'environnement? On a déjà quelques solutions, on a déjà quelques exemples. Je pense à Saveur Paysanne. On a déjà de quoi s'appuyer peut-être sur le territoire.
Bah oui, tout à fait, hein, comme des réseaux organisés, hein, oui. Comme Saveur Paysanne, hein, donc des producteurs qui se sont regroupés pour nous proposer des produits locaux qui proviennent d'un rayon d'environ 10 km aux alentours de Villefranche. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi des agriculteurs, notamment agriculteurs bio, qui commencent à s'organiser pour essayer de pouvoir fournir la restauration collective. Alors, c'est pas forcément évident. Hein. Il y a un gros travail qui est fait avec l'APABA.
Oui, l'Association pour la promotion de l'agriculture biologique. On avait en faut tout dire aussi, comme PETR, on l'a pas dit, mais voilà, ça peut être obscur aussi pour les auditeurs.
C'est de la pédagogie. Pour les équilibres, pour le d'équilibre territorial et rural.
Centre-Ouest Aveyron.
Centre-Ouest Aveyron.
Donc voilà, on a des agriculteurs qui commencent à s'organiser. Après, c'est pas chose facile, hein. Il faut mettre tout le monde en réseau, organiser tout ça, avoir suffisamment de production pour pouvoir répondre aux besoins. Donc c'est tout un travail qui est à faire de ce point de vue-là. Et après, on a aussi notre responsabilité en tant que consommateur, pour favoriser tous ces circuits courts, hein, manger localement, choisir les produits qu'on veut consommer et aller dans les magasins locaux ou sur le marché.
Bio et local, c'est l'idéal, comme ils disent du côté de l'Association pour la promotion de l'agriculture bio en Aveyron. C'est une histoire de collectif, hein, si on avait à résumer un petit peu tout ça. Et vous êtes fort, Michel, pour regrouper, dynamiser le collectif en tant qu'entraîneur, ancien entraîneur des éperviers de montagne. Ça demande des ressources, des compétences et puis un savoir-faire.
Oui, peut-être pas. Disons que là, le sujet. Non, je pense plutôt que c'est le sujet qui est fédérateur. On est devant quand même c'est du court terme. Hein, le climat change, on s'en aperçoit tous les jours. On n'a qu'à voir en ce moment, en mois de février, avec des températures à plus de 20 degrés. Moi, j'ai pas trop souvenance de moi. Depuis mon enfance, j'ai pas connu souvent ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a des phénomènes météorologiques qui impactent tout le monde. Donc, il est temps de s'en préoccuper, parce que si on ne fait rien maintenant, c'est la catastrophe demain. Donc, moi, j'étais pas particulièrement branché là-dessus, quoi. Hein. On m'a gentiment donné ce PCAET.
Vous l'êtes approprié, on dirait.
Je me suis approprié, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'en prenant connaissance de toute l'information qu'il y a autour, c'est-à-dire tous ces problèmes de consommation d'énergie, de réchauffement de la planète, tout ça, eh bien, je dis qu'il y a quelque chose à faire. C'est important pour laisser à nos futures générations, enfin, à nos enfants, nos petits-enfants, plutôt, moi, je parle pour moi, une planète qui veuille. Enfin, qu'il soit intéressant encore, où il est intéressant de vivre encore, voilà.
Rôle de médiation, hein, donc, pour la communauté de communes autour de ce plan climat air énergie, de fédérer autour aussi de la constitution de la société d'intérêt, de coopérative d'intérêt collectif. On peut rejoindre cette société. Faut prendre contact avec vous, Élise Jean, je pense, à la communauté de communes pour,
oui. Tout à fait, oui, ou avec moi, ou voilà, par le standard, hein, nous, c'est avec plaisir qu'on vous donnera toute l'information qu'on a dès à présent, et puis on vous tiendra au courant aussi de l'avancée de cette SIC, et puis, pourquoi pas vous proposer d'y participer si ça vous tente.
05 65 65 08 01, numéro de téléphone de la communauté de communes du Grand Villefranchois. Vous demandez Élise Jean, Julien Caillet ou Michel Delpech.
Je suis pas souvent.
vous occupez les lieux. En tout cas, ce qu'on peut dire, prochain rendez-vous, prochain mardi du climat, ce 5 mars. C'est une volonté aussi de l'avoir voulu itinérant, j'imagine, pour toucher un public différent. C'est à 120 à la salle polyvalente, mardi mardi prochain et je serais tenté de dire nous irons tous et nous y mènerons nos enfants. Comment ça se dit en occitan, Michel Delpech?
Il faut demander à Jacques Itain. C'est un spécialiste. Je le parle un peu, mais je l'abîme beaucoup surtout.
Merci d'avoir accepté cette invitation et bravo encore pour cette initiative de la porter pour le territoire donc Ouest Aveyron et par la communauté de communes. Merci Élise Jean, merci. Michel Delpech et bravo encore.
Et merci à vous.
Merci.
Merci. CFM, le MAG, tous les jours, 12h30, la vie du Villefranchois.